VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'Érythrée et père de réformes susceptibles de transformer en profondeur un pays longtemps livré à l'autoritarisme. Ce prix est un coup de pouce bienvenu pour le dirigeant de 43 ans qui fait face à une inquiétante flambée des violences intercommunautaires dans son pays où des élections législatives sont censées avoir lieu en mai 2020. Monsieur Abiy est récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen. Après une campagne digne d'un feuilleton télévisé, les Tunisiens vont choisir dimanche leur président entre un universitaire hermétique sans expérience du pouvoir et un homme d'affaires poursuivi pour fraude fiscale et libéré à 4 jours seulement du second tour. Les 7 millions d'électeurs retournent aux urnes pour la troisième fois en un mois dans une ambiance fébrile pour la seconde présidentielle au suffrage universel depuis la révolution de 2011. Le premier tour qui a eu lieu le 15 septembre a balayé tous les dirigeants sortants, propulsant à la première place un spécialiste du droit constitutionnel, Kais Saied, âgé de 61 ans. Face à lui, le magnat des médias, Nabil Karoui, âgé de 56 ans, issu du sérail politique, mais à couteau tiré avec une bonne partie des dirigeants. Amnesty International a dénoncé hier l'actuel climat de répression du mouvement populaire de contestation en Algérie. Cette sortie coïncide avec l'arrestation d'un autre responsable associatif, Yacouba Ouedraogo.
La directrice d'Amnesty en Algérie, Hassina Ousedik, dénonce, je cite, une recrudescence du nombre d'arrestations arbitraires de militants, journalistes, avocats, étudiants ou de simples citoyens en violation flagrante des droits garantis par la Constitution. Jeudi matin, Abdelwahab Fersaoui, président du rassemblement Action Jeunesse, a été arrêté lors d'un rassemblement de soutien aux personnes placées en détention dans le cadre du mouvement de contestation. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un mouvement inédit de contestation du régime appelé Hirak, qui a entraîné la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril et réclame désormais le départ du système. Mais le nouvel homme fort du pays, le général Gaïd Salah, a dit vouloir la tenue d'une élection présidentielle pour le 12 décembre. Les manifestants veulent le départ de tous les caciques de l'ancien régime. La présidentielle n'a pas pu se tenir en juillet dernier, faute de candidats.
L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera jugé pour corruption dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales après le refus unanime aujourd'hui d'un tribunal sud-africain d'abandonner les poursuites visant l'ex-chef de l'État. La demande d'abandonner les poursuites a été rejetée, a déclaré le juge Willy Seriti de la haute cour de Pietermaritzburg. En conséquence, le procès de l'ancien président va débuter mardi dans cette ville de l'Est de l'Afrique du Sud. Et les États-Unis ont annoncé jeudi avoir placé sur la liste noire des sanctions 3 membres d'une puissante et sulfureuse fratrie d'hommes d'affaires, les Gupta. Cette famille est au cœur de plusieurs scandales de corruption en Afrique du Sud qui ont provoqué la chute en 2018 du président sud-africain Jacob Zuma. Le dossier de ce journal nous conduit au Congo-Brazzaville. La dynamique incarnée l'espoir invite les Congolais à une révolution culturelle en vue de sortir le pays de l'impasse. Il s'agit d'une plateforme de la société civile qui, après plusieurs analyses, entend agir sur le terrain afin de sauver les Congolais, a dit à Irénée Hermanoumbo, son président, Andrea Ngombe.
D'abord, le constat de la situation locale que nous avons eu le temps d'analyser en tant que collectif Sassoufi, de la corruption et la volonté d'apporter au-delà de la critique une solution nouvelle pour les populations, un espoir, et c'est pour cela qu'on appelle notre plateforme la dynamique Incarner l'espoir.
Quelles sont les perspectives de cette dynamique?
C'est déjà de permettre à la jeunesse congolaise et à la société en général de se remettre en question et d'aller beaucoup plus vers des logiques de projet et non plus simplement des logiques ethniques qui ont toujours prévalu dans l'organisation politique actuelle du Congo.
Est-ce que vous vous identifiez par rapport à l'opposition ou vous êtes dans une dynamique de complémentarité?
On a toujours été dans un travail de complémentarité avec une certaine opposition, mais aujourd'hui nous sommes dans une stratégie de dépassement. De dépassement en se disant qu'on ne fera pas gagner un camp contre un autre, un Congo contre un autre, mais plutôt c'est quelque chose que nous proposions à tous les Congolais, y compris à ceux qui sont actuellement dans la mouvance présidentielle, de leur dire le pays est dans l'impasse, la crise économique est là, la souveraineté a été bafouée, l'argent a été volé et il faut aller ensemble vers une solution. Et cette solution, pour nous, c'est incarner l'espoir.
Mais quelle est la solution au-delà des expressions, au-delà d'une...
Non, mais je peux aller plus spécifiquement. Déjà, la première des solutions pour nous, c'est de permettre à la justice congolaise d'être indépendante du pouvoir exécutif. Et pour cela, un certain nombre de réformes doivent être mises en place, notamment la réforme du parquet, notamment doter de moyens réels la justice congolaise, qui est en fait sous-dotée par rapport au budget de la défense ou à d'autres budgets, mais notamment celui de la défense, et permettre ainsi l'établissement de ce qu'on appelle vulgairement le règne de la loi, donc le rule of law. Et avec une telle réforme, on peut permettre à l'État congolais d'avancer.
Visiblement, la dynamique incarner l'espoir ne s'identifie ni de l'opposition ni de la mouvance présidentielle. Quel est ce langage nouveau que vous apportez aux Congolais qui, pour la plupart, veulent d'une rupture avec un système qui a duré quand même 40 ans?
Justement, au-delà des personnes qui gèrent mal, nous avons un sérieux problème institutionnel au Congo qui vient de notre histoire politique, qui passe par des idéologies comme le maoïsme, qui passe par des idées périmées comme celle du pouvoir au bout du canon. Et donc, c'est à une révolution culturelle ensemble que nous invitons les Congolais.
André Ngombe, président de la dynamique Incarner l'espoir au Congo. RDC, un avion cargo qui assurait la logistique d'un déplacement du président congolais Félix Tshisekedi dans l'est de la République démocratique du Congo est porté disparu depuis hier, selon un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Le président Félix Tshisekedi lui-même est rentré jeudi soir à Kinshasa après une visite de 4 jours dans l'est de la RDC. Un avion de la compagnie aérienne Silverstone Air est sorti de la piste au moment du décollage depuis Nairobi au Kenya avec 55 personnes à son bord, dont deux heureusement ont été blessés, ont annoncé la compagnie et l'autorité aéroportuaire kenyane. D'après l'AFP, l'avion a d'abord percuté la clôture entourant le terrain de l'aéroport avant de s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin dans des arbustes. En Angola, le président João Lourenço, qui entretient des relations très tendues avec son prédécesseur et ancien mentor José Eduardo Santos, a accusé jeudi des membres de son propre parti de financer une campagne de déstabilisation du pays. Lionel Gaïma.
Ceux qui ont détourné les ressources du pays utilisent ces mêmes ressources pour financer une campagne de déstabilisation, une campagne d'intoxication contre l'Angola, a déclaré João Lourenço à Luanda devant les jeunes du MPLA, le parti au pouvoir. Cette campagne n'est pas contre le président. Cette campagne est dirigée contre notre pays. Elle a été proposée par des nationaux, apparemment du MPLA, et je dis apparemment parce qu'ils ne se comportent pas comme tels, et qui ont encore le culot de parler au nom du peuple, a-t-il ajouté, sans citer de nom. En septembre 2017, João Lourenço a succédé à José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Peu après, au nom de la lutte contre la corruption, le nouveau président a lancé une grande purge dans l'administration et les entreprises publiques qui a visé des proches de l'ex-chef de l'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite en Turquie, a exhorté aujourd'hui Ankara à agir avec retenue lors de l'offensive menée contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie. Bien que la Turquie ait des préoccupations sécuritaires légitimes, nous nous attendons à ce qu'elle agisse avec retenue, a déclaré M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse avec le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu. La Turquie, membre important de l'OTAN, mène depuis mercredi une offensive en Syrie contre la milice kurde des YPG, considérée comme terroriste par Ankara, mais alliée des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche le vice-premier ministre chinois Liu He pour tenter de sortir de l'impasse de la guerre commerciale, mais le président américain a laissé planer le doute sur son envie de signer un accord. Et puis, les démocrates qui supervisent l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump ont exigé jeudi la coopération de deux hommes d'affaires proches de l'avocat du président arrêtés dans une procédure distincte alors qu'ils allaient quitter les États-Unis. Lev Parnas et Igor Fruman, des citoyens américains nés en Ukraine et en Biélorussie, ont été interpellés mercredi soir à l'aéroport international de Washington, munis d'un aller simple pour une destination à l'étranger, a révélé la police fédérale. Ils sont soupçonnés d'avoir servi d'émissaire à Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, dans ses efforts pour convaincre l'Ukraine de livrer des informations compromettantes sur Joe Biden, possible adversaire de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020. Le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.